la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, j'ai intitulé mon sujet aujourd'hui « 5 conseils pour évangéliser et connecter ». 5 conseils pour évangéliser et connecter. Et il n'y a pas de meilleur endroit dans la Bible que ce passage où l'apôtre Paul exprime le fardeau qui pèse sur son cœur. Voilà ce qu'il dit dans le chapitre 9 de la première aux Corinthiens, au verset 16, il dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Nous avons ici l'expression du cœur de l'apôtre. L'apôtre Paul, qui était un excellent communicateur de l'Évangile. Il était un très bon témoin, il était capable de donner son témoignage d'une façon très claire. Il était aussi un prédicateur de masse, un excellent évangéliste. Et puis il était un apologète, c'est-à-dire qu'il était capable de défendre d'une façon logique, avec une solide argumentation, de façon raisonnable, le message de l'Évangile. L'apôtre Paul, c'est le messager complet. Et là, il partage ce qu'il y a dans son cœur. En effet, il fait tout à cause de l'Évangile. Il cherche surtout à connecter, pas seulement à communiquer. Parce qu'il y a une différence entre les deux. La connexion procède de la communication. On peut communiquer et pas forcément connecter. Il nous faut chercher, bien plus que communiquer une somme d'informations à ceux qui nous écoutent, il nous faut chercher à connecter véritablement avec eux. Ce qui a fait dire à l'expert en communication John Maxwell, beaucoup communiquent, mais peu connectent. Vous avez remarqué qu'il est difficile de connecter avec les gens. Je m'en rends compte à chaque fois que je prends l'ascenseur. Lorsque vous êtes à l'intérieur de l'ascenseur, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et tout à coup, tout le monde se sent comme inconfortable. Alors chacun regarde le bout de ses souliers. Ou alors quand on est dans un arrêt de bus, vous avez remarqué, vous êtes à deux, il y a quelqu'un à côté de vous, il pleut, et vous êtes en train d'attendre la prochaine navette, et puis le temps passe, ça devient long, et puis il y a une forme d'embarras qui commence à prendre place avec la personne qui est à côté de vous. Vous essayez d'entrer en contact avec elle et vous commencez à dire « Il pleut aujourd'hui ». Et la personne vous regarde furtivement et puis elle fait « Hein ?» Vous voyez que ce n'est pas gagné. On se rend compte qu'il y a encore du travail pour établir véritablement la connexion avec quelqu'un. Et mon travail d'évangéliste consiste véritablement à aider les chrétiens, les membres du corps du Christ, eh bien, à chercher non seulement à communiquer, c'est-à-dire diffuser une somme d'informations qui concernent le message contenu dans la Bible, bien plus que cela, mais à connecter avec les gens qu'ils rencontrent chaque jour. Alors il faut que cette communication soit bien encodée pour que celui qui la reçoive puisse bien la décoder. Je me souviens d'une action d'évangélisation dans la ville de Troyes. Nous avions eu un rassemblement de jeunesse. On avait formé quelques jeunes à aller prendre contact, à établir le contact avec les gens dans la ville. Et puis, un membre de l'assemblée s'était invité lui-même, mais en retard. Il n'avait pas suivi le programme de formation et il a voulu absolument se rendre dans la rue. Dès qu'il est arrivé dans la rue, je l'ai vu s'échapper, s'esquiver pour commencer à établir le contact. alors qu'on avait encouragé les jeunes à fonctionner deux par deux, à faire attention aux patois de Canaan, etc. Et je vois ce frère qui part et qui commence à faire signe à un jeune qui avait sa casquette de travers et qui était en train de faire du skateboard. Alors il l'arrête et puis il s'approche de lui et il dit « Hé, toi le jeune, tu sais que tu as besoin d'être sauvé ?» Parce que sinon, tu vas aller en enfer. Il faut que tu découvres le message de la rédemption, que tu reçoives la justification, que tu marches dans la sanctification, et puis tu connaîtras alors la glorification. J'avais le sentiment que ce jeune venait d'assister en direct à une explosion nucléaire. Pour dialoguer avec un tel messager chrétien, eh bien, je pense qu'il faut se doter d'un dictionnaire biblique, d'un commentaire biblique, pour essayer de déchiffrer ce qu'il est en train de vous apporter. Non, il faut être beaucoup plus simple. Je ne vais pas traiter du contenu du message de l'Évangile, j'aurais pu le faire. On pourrait traiter de nombreuses choses concernant le travail d'évangélisation. Mais aujourd'hui, j'ai voulu me cantonner simplement à la communication, le fait d'entrer en contact. 5 conseils pour évangéliser et connecter véritablement avec les gens. Avec la globalisation, l'Église est entrée dans cette ère de ce que nous appelons l'évangélisation transculturelle. Aujourd'hui, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. À Paris, vous êtes en mission. Il faut soutenir les missionnaires, c'est important. Il faut soutenir ceux qui font le travail d'évangélisation. Mais l'Église contemporaine a besoin de réaliser qu'aujourd'hui, maintenant, là où elle est implantée, elle doit être missionnaire. Elle doit être missionnaire. Elle doit réviser sa copie. Elle doit être équipée. Elle doit s'interroger sur les gens auxquels elle souhaite s'adresser. Et si je ne m'intéresse pas à mon audience, si je ne m'intéresse pas à mon auditoire, comment mon auditoire va-t-il s'intéresser à moi? Puisque quelqu'un l'a dit, le cerveau ne s'intéresse pas à ce qui l'ennuie. Et si notre message ennuie les gens ne vont pas l'écouter. Alors il faut le rendre attrayant. Il faut le rendre adaptable. Il faut qu'il soit adapté. Le message ne change pas, mais l'emballage doit changer. Le message est indémodable. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité le troisième jour. La Bible parle de repentance, de conversion, de foi en Dieu, etc. Nous ne devons jamais toucher au message, c'est le message de Dieu. Mais nous devons travailler la méthode de communication de ce message. Illustration toute simple. Imaginez un pizzaiolo. Nous sommes en plein hiver, il fait moins 10 à Paris. Le pizzaiolo est parti en retard. Il traverse la ville, il doit vous livrer votre pizza. Chut, la roue arrière de son scooter dérape sur une plaque d'égout. La pizza vole à 15 mètres d'altitude et elle retombe à vitesse grand V sur le visage du pizzaiolo qui, le pauvre, essaye tant bien que mal de remettre la pizza à l'intérieur de la boîte. Et il se rend chez vous parce qu'il doit livrer impérativement en temps et en heure la pizza. Alors il arrive, il frappe et vous ouvrez la porte et vous avez en face de vous un homme couvert de sauce tomate qui vous livre une pizza ou plutôt une sorte de pizza dans une sorte de boîte. Et face à la livraison, qu'allez-vous faire? Allez-vous payer ou renvoyer le pizzaiolo? Vous allez le renvoyer, tout simplement. Pourquoi? Parce que la boîte ne rassure pas sur ce qu'il y a à l'intérieur. L'emballage est important. Le package est important. La manière avec laquelle nous communiquons notre glorieux message est extrêmement importante, elle aussi. Alors, quelques conseils simples. Le premier, souriez. Souriez-moi quelques instants. Pas facile, allez-y. Souriez à votre voisin maintenant, souriez à votre voisine. Montrez-lui toutes vos dents, même celles qui vous manquent. Souriez quelques instants à Jésus. Si Jésus était là, vous devriez lui sourire, n'est-ce pas? Sourire est extrêmement important. Je me souviens d'une assemblée dans laquelle il y avait un frère tellement austère que sa joie, comme il disait ma joie, moi, frère, elle est très profonde. Et je lui dis, il serait bien qu'elle remonte un peu à la surface. Et son pasteur disait de lui, il est tellement pieux, frère Alexandre, qu'avec lui, on pourrait faire une clôture. Souriez! Souriez, pourquoi? Parce que quand je souris, je dis, vous êtes bienvenus. Quand vous souriez à quelqu'un, vous dites, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert au dialogue. Pourquoi les gens n'affichent pas de sourire? parce qu'ils ne veulent parler à personne, parce qu'ils veulent qu'on les laisse tranquilles, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les arrête dans leur course. Alors, ils ferment les grilles, ils ferment les volets, ils ne veulent pas de contact. Mais nous, les chrétiens, nous voulons évangéliser. Si nous ne sourions pas, comment allons-nous pouvoir partager ce merveilleux message ? Il faut donc sourire. Alléluia ! Paul Ekman, qui est spécialiste des expressions faciales et des émotions, a recensé, écoutez-moi bien, 19 sourires capables d'exprimer 44 émotions, comme la complicité, la séduction ou la gêne. Ce qui signifie que les gens savent, ils sentent quand votre sourire est sincère, quand il est vrai ou quand il est forcé. On ne peut pas tromper, le sourire ne trompe pas. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux ». Alors ça doit se voir. Lorsqu'il y a de la joie, ça se voit, n'est-ce pas ? Alors si nous sommes les gens les plus heureux de la terre entière doit savoir que nous sommes ces gens les plus heureux. Si Anne Bovy a fait cette déclaration, il dit « La gentillesse est le langage que le muet peut parler et que le sourd peut entendre. » Sourire, être gentil, être aimable. Voilà comment nous démarrons la connexion avec quelqu'un. Je me souviens quand j'étais au Pakistan, c'était une campagne de masse que nous avions dans la ville de Faisalabad. Et j'ai voyagé avec une compagnie pakistanaise. Et c'était une sacrée aventure quand même. Parce que là, vous apprenez beaucoup à prier. Surtout quand ils font monter à l'intérieur de l'avion. Déjà, quand je suis arrivé en bas de l'escalier qui allait m'introduire à l'intérieur de l'appareil, je vois sur le côté une immense pancarte avec toutes sortes de photos. Il y avait des kalachnikovs. Il y avait des grenades. Il y avait des bombes. Et puis, il y avait des produits chimiques. Et puis, c'était marqué en bas, « Interdit d'introduire toutes ces choses dans l'appareil. » Waouh ! Ça rassure, hein ? Alors, j'ai monté les marches. Et puis, en haut, il y avait une charmante hôtesse. Et elle cherche à regarder mon billet d'avion. Et comme il faisait très chaud, j'avais les mains trempées de sueur. Et l'encre de mon billet s'était détachée. Et puis, alors, elle cherchait le numéro, elle cherchait mon nom, mais elle ne s'inquiétait pas forcément, hein ? Il ne faut pas s'inquiéter quand c'est comme ça. Alors, elle regarde le billet d'avion, puis elle essayait de déchiffrer. Il ne restait plus que quelques chiffres mélangés avec les autres. Puis elle me dit, mais quel est votre nom ? Puis elle lit votre siège, mais elle dit, c'est 007. Je dis, madame, mon nom, c'est Bond, James Bond. Alors, on a sympathisé, puis tout le vol, nous avons discuté ensemble. On a eu le privilège d'avoir un plateau repas. C'était un bonbon sur un petit plateau en aluminium. Et pendant la dégustation du bonbon et du vol qui a duré pas loin de 3 heures, eh bien, j'ai eu l'occasion de discuter avec cette hôtesse et de lui parler du Seigneur Jésus. Mais je lui avais souri. Nous avions souri et nous avons pu discuter ensemble. Le sourire ouvre la porte à l'évangélisation. Deuxième conseil, je vous invite à pratiquer l'humour. L'humour, c'est important. Vous savez que Jésus avait beaucoup d'humour. En effet, quand il dit à ses disciples, vous savez, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une épingle. J'imagine que tous ses disciples ont commencé tous à se courber comme des bananes. Ils devaient rire comme des bossus. En effet, le Seigneur était pertinent dans ses paroles. Et quand vous reparcourez les paroles du Seigneur, vous vous rendez compte que le Seigneur souvent cherchait le contact. Il confondait les chefs religieux. Il leur montrait leur erreur, leur folie, leur dureté de cœur par des paroles d'une telle pertinence. Jésus avait énormément d'humour. G.K. Chesterton a déclaré « C'est un péché de présenter l'Évangile la plus belle des histoires, avec un ton dur, sans aucune inspiration, ni humour, ni joie. » Alors quelqu'un dira « Oui, mais pasteur Alexandre, quand on prêche l'enfer, quand on parle du jugement, on ne peut pas le faire avec de l'humour et de la joie. » C'est vrai, vous avez raison. Et il faut parler dans le message d'évangélisation. Il est des moments où il faut aborder ces sujets. Faut-il aborder ces choses dès le débarrage ? Non, il faut d'abord établir une connexion, une relation humaine avec quelqu'un pour ensuite lui apporter le message spirituel. Il faut d'abord une connexion naturelle pour ensuite apporter une communication spirituelle. C'est ce qui va produire la connexion avec la personne. Je ne crains pas de prêcher l'enfer, je ne crains pas de parler du retour de Jésus, je ne crains pas de parler du jugement. J'aborde toutes ces choses dans mon message d'évangélisation. Mais en même temps, Je dois chercher à établir le contact avec la personne. Et l'humour est souvent l'une des clés qui va rassurer la personne et me permettre d'établir une vraie relation avec elle. Comment quelqu'un va-t-il écouter une personne dont il n'a pas confiance ? Mais si la personne sent qu'elle peut avoir confiance en vous, vous allez pouvoir lui délivrer le glorieux message de l'Évangile. Pratiquez l'humour. Il y a quelques années, je me rendais dans l'est de la France. Nous étions deux évangélistes dans la voiture. Alors, un évangéliste dans une voiture, c'est dangereux, mais deux, c'est encore plus dangereux. Parce qu'il parle d'évangélisation tout en conduisant. Et à un moment, je n'ai pas veillé à la limite de vitesse, et puis j'ai roulé un peu trop au-dessus. Et tout à coup, un homme vêtu de bleu est apparu sur la route. Ça n'était pas un schtroumpf, non. C'était un gendarme. Et il m'a fait signe brutalement de me garer sur le côté. Alors je me suis garé sur le côté, j'ai baissé la vitre et le gendarme s'est adressé à moi. Il me dit « Vous vous doutez pourquoi je vous arrête ?» Je lui dis « Je pense que j'ai roulé au-dessus de la vitesse autorisée. » Il me dit « Oui, suivez-moi dans mon véhicule. » Je l'ai suivi. Il a pris place à l'intérieur de son véhicule. Il a ouvert son ordinateur. Il a commencé à pianoter sur le clavier. Il avait ma carte grise. Il a rentré les informations. Et puis, d'une manière furtive, comme seuls les gendarmes sont capables de le faire, il a jeté rapidement un regard vers moi en disant « 90 euros !» Alors, je le regarde et je dis « Waouh, super !» Alors, deuxième regard. Il n'était plus furtif, celui-là. « Ah bon ?» Ah, je lui dis « Super, monsieur l'agent !» Il me dit mais pourquoi ?»« Mais parce que, monsieur l'agent, celui qui transgresse la loi doit payer !» Monsieur l'agent, je vous explique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mentir ? Il me dit, mais oui, comme tout le monde. Comment appelle-t-on quelqu'un qui ment ? Il me répond, un menteur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voler ? Oh, quand j'étais gamin, des bricoles, des bonbons à mon frère. Comment appelle-t-on quelqu'un qui vole, monsieur l'agent ? Il me dit, un voleur. Est-ce que vous avez déjà eu des pensées de convoitise pour le sexe opposé ? Il me dit, mais comme tous les hommes. Je dis, oui, surtout que Jésus a dit, il suffit de regarder une femme avec de la convoitise pour commettre un adultère dans son cœur. Monsieur l'agent, vous avez menti, vous avez volé, vous avez commis adultère dans votre cœur. Imaginez que Dieu vous juge maintenant sur la base de ces trois seuls commandements. À votre avis, quel serait le verdict ? Innocent ou coupable ? Répondez-moi. Il me dit, coupable ? Quelqu'un qui se trouve devant un juge et qui est coupable, de quoi a-t-il le plus besoin ? De la chance ou d'un bon avocat, monsieur l'agent ? Il me dit, d'un bon avocat. Alors c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. Jésus est l'avocat qui est venu sur la terre mourir sur la croix pour nos péchés. Alléluia ! Et il me dit, mais vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Je lui explique quelle est ma mission, quel est mon rôle. Je suis prédicateur de l'Évangile. C'était un Antillais. Et il me dit, mais dans les îles, j'ai vu, il y a des temples avec... C'est marqué plein Évangile, Église évangélique. Il me dit, c'est ça ? Je dis, oui, c'est tout à fait ça. Ah, il me dit, où est l'église la plus proche dans la région, s'il vous plaît ? J'ai sorti l'annuaire de nos églises et je lui ai donné l'adresse de l'église la plus proche. J'avais pratiqué l'humour avec cet agent très sympathique qui m'avait sympathiquement verbalisé et je lui ai parlé de l'amour du Seigneur. J'en entends déjà qui disent « Mais alors, est-ce qu'il a demandé grâce ?» Ça ne se fait plus aujourd'hui, mes amis. Ça ne marche plus. Troisième point. Parler de la pluie et du beau temps. Troisième conseil, parler de la pluie et du beau temps. Quelqu'un dit, s'il n'y avait plus ces nombreuses variations de la météorologie, les êtres humains n'auraient plus grand-chose à se dire. Heureusement qu'il pleut. Heureusement qu'il pleut de temps en temps. Ça permet de discuter avec le voisin, au-dessus du grillage. Vous avez vu, il va pleuvoir. Eh oui, ça va bien me servir pour mes carottes et mes tomates. Et là, on commence à discuter avec la personne. Il faut commencer à s'intéresser à la personne. Jésus était rempli du Saint-Esprit, il était connecté avec le ciel, mais il était aussi connecté avec la terre. La vraie puissance du Saint-Esprit nous connecte avec le ciel et avec la terre. Vous avez remarqué que dans vos prises murales, il y a toujours une prise de terre. Et les chrétiens sont parfois tellement connectés avec le ciel qu'ils n'ont plus aucune connexion avec la terre. Mais il faut rester connecté avec le monde pour lui apporter la révélation. Cette révélation des enfants de Dieu que le monde attend, cette révélation à laquelle le monde aspire. Et il faut établir simplement le contact. Parfois, il suffit de dire « Bonjour, vous êtes du quartier ?» Ça, c'est important. Vous pouvez vous intéresser à la personne. Il y a de nombreux pôles d'intérêt. Si vous parlez du travail, la personne va ouvrir ses oreilles, elle va commencer à discuter de ses problèmes qu'elle rencontre au boulot, etc. Vous pouvez parler des loisirs aussi. Vous pouvez parler du sport. Vous pouvez parler de l'actualité, de la famille, du quartier, de l'école, des enfants. Parler de la santé. Comment allez-vous? Ça va la santé? Oh, si vous saviez. Et là, la connexion est faite avec la personne. Vous pouvez parler de la maison, du jardin, des travaux, des vacances, etc. Connectez avec la personne. Intéressez-vous à elle. Vous pourrez ensuite lui parler du spirituel. J'aime beaucoup évangéliser dans les avions, surtout quand je fais un vol Paris-Buenos Aires qui va durer 13 à 14 heures. Pourquoi ? Eh bien parce que celui qui est assis à côté de moi ne peut pas descendre en vol. Et il va devoir me supporter pendant 14 heures. Alléluia ! Il est attaché avec la ceinture, l'avion monte à 10 000 mètres d'altitude, et puis il fait moins 40 à l'extérieur. Pas possible de descendre en route. Et là, ensemble, on discute. Et souvent, je pose la première question, celle qui tue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et la personne pianote sur son ordinateur. Je me souviens de cet homme d'affaires qui pianotait, puis qui me dit « Ah, je bâtis des buildings à Tokyo et à New York. » Et je fais « Ah. » Et j'attends qu'il renvoie l'ascenseur. Et quelques instants plus tard, n'y résistant pas, il me dit « Et vous ?» Alors je réponds « Je travaille pour la compagnie internationale de construction et de restauration la plus importante sur le plan mondial. Nous travaillons sur les 5 continents. » Waouh ! Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Jésus. Et vous êtes portugais ? Et la connexion est faite avec ce monsieur. Pendant 14 heures, il va avoir la joie d'avoir un évangéliste à plein temps avec lui pour lui parler des choses concernant le royaume de Dieu. Alléluia ! C'est important de connecter avec les gens. Et puis, quatrième point, comment évangéliser ? Comment connecter ? Racontez votre histoire. Racontez votre histoire. Comment raconter son histoire ? Regardez l'apôtre Paul. Quand il rendait témoignage, il y avait une forme de trilogie. C'était un témoignage en 3 points. Il racontait ce qu'il était avant de connaître Jésus, il racontait comment il avait rencontré Jésus et il savait raconter ce qu'il était devenu depuis qu'il avait rencontré Jésus, avant, pendant, après. Je revenais de Ouagadougou, je monte à l'intérieur de l'avion, je rentre ma valise dans le compartiment à bagages et alors que j'essaye de faire rentrer cette valise tant bien que mal, tout à coup je vois le steward qui me regarde, il est à 5 mètres de moi et il file directement sur moi. Et puis il se plante devant moi et il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?» Et je vois cet homme qui tremble, je vois la détresse dans le regard de cet homme. Et je lui dis, brûle pour point, directement, je m'appelle Franck Alexandre, je suis prédicateur de l'Évangile, j'annonce que Jésus est vivant, qu'il peut changer notre vie, il peut nous guérir, il peut nous délivrer, mais surtout il peut nous sauver. Ma mère était voyante, elle était guérisseuse, elle était devineresse, j'étais spirite et parapsychologue, mes parents voulaient divorcer, mon frère consommait de la drogue et de l'alcool, la maison était hantée de la cave au grenier, même le chien était possédé. Waouh ! Waouh ! Le steward est comme ça. Il me dit, une force intérieure m'a poussé vers vous. Ma femme est possédée, je cherche un moyen de la délivrer. Qui pourrait m'aider ? Et de retour en France, on l'a connecté avec un pasteur parisien. Et cet homme a pu trouver de l'aide pour sa femme et pour sa propre vie. On avait connecté, mais j'avais connecté avec lui en délivrant le témoignage de ma rencontre avec Jésus. Alors vous vous dites, oui, mais moi je suis pas un gangster. Moi je suis pas un voyant, je suis pas un magicien. Ne quittez pas la salle pour aller cambrioler une banque, ça ne servira à rien. Vous savez, la Bible dit que en Jésus-Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Et quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité, vous ne pensez pas qu'il a quelque chose à dire ? Alléluia ! Vous avez quelque chose à dire. Votre propre expérience, votre propre témoignage, le témoignage de l'obscurité dans laquelle vous viviez avant de connaître Jésus et le témoignage de la lumière dans laquelle vous marchez aujourd'hui depuis que vous connaissez le Seigneur. Alléluia ! Amen ! Parlez de la pluie et du beau temps. Racontez votre histoire. On peut acclamer le Seigneur, en effet. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui nous a changés. Et je terminerai par ce 5e point. Évitez le jargon. Évitez le jargon. Albert Einstein pouvait dire « Si quelqu'un ne parvient pas à expliquer un concept clairement, c'est qu'il ne maîtrise pas assez bien son sujet. » Vous ne faites pas des nœuds au cerveau avec le terme repentance, avec le terme conversion, avec le terme baptême d'eau, avec le terme jugement, avec le terme condamnation, avec le terme enfer, avec retour de Jésus. Parlez normalement. Essayez d'expliquer les choses. Prenez le temps d'exposer. Prenez le temps de discuter. Prenez le temps de vous asseoir, d'offrir un verre, de boire un café avec la personne. Prenez le temps de raconter votre histoire. Votre histoire sera une formidable analogie pour expliquer comment vous êtes passé des ténèbres à la lumière, tout simplement. Évitez de jargoniser. Parlez normalement. Avec mon épouse, nous étions au restaurant il y a quelque temps et j'ai remarqué que sur la table, la nappe était en papier. Super pour évangéliser. Le papier est fourni. Alors, comme la serveuse était très sympathique, j'ai pensé qu'après quelques blagues avec elle, je pourrais lui laisser maintenant quelque chose de super intéressant. Alors, j'ai sorti un stylo. Premier point sur la nappe. Premier point. Dieu vous aime et il a un plan pour vous. Un verset à l'appui. Point numéro 2. Mais vous avez un problème. Vous êtes séparé de Dieu, éloigné de lui. Vous avez besoin de le rencontrer. Point. Troisième point. Dieu vous donne la solution. Jésus est mort sur la croix pour vos fautes et Jésus veut pardonner vos péchés et il veut changer votre vie. Point. Quatrième point. Vous pouvez le recevoir maintenant et votre vie changera si Jésus devient le Seigneur et le roi de votre vie. Et je mets un verset biblique en plus et je lui partage l'évangile. La serveuse arrive, elle regarde la nappe. Je dis, mademoiselle, interdit de jeter cette nappe à la poubelle. Dieu vous a écrit un message. Il y a un message de Dieu pour vous. Et j'ajoute l'adresse de l'église évangélique la plus proche dans cette ville. Et nous avons plié la nappe en quatre, elle l'a mis dans son sac, elle l'a lu chez elle. Et nous lui avons tout simplement apporté l'évangile sans jargoniser d'une façon très simple. Il y a une demoiselle chrétienne qui décide d'inviter sa petite copine au culte. Et puis quand elle se rend à l'église, elle arrive au moment où l'ancien est en train de faire la lecture de la Sainte Cène, où il est écrit « Prenez ceci et mon sang, buvez-en tous ». Et le premier message que la demoiselle entend, elles sont arrivées en retard. Premier message qu'elle entend, c'est cela. « Prenez ceci et mon sang, buvez-en tous ». Et puis, un autre ancien arrive derrière, il commence à chanter le chant sur le cantique de l'agneau, les noces de l'agneau. De retour chez elle, le papa de cette jeune fille non chrétienne lui dit « Alors, c'est comment dans l'église de ton ami ?» Et la demoiselle lui dit « Tu sais, papa, Coralie, elle a vraiment un gros problème. Elle va dans une secte satanique. Là-bas, ils boivent du sang et ils marient les moutons ensemble. » Savez-vous qu'une enquête de George Barna a permis de mettre en évidence qu'un tiers des Américains sont capables d'exprimer le terme « gospel », un tiers seulement. 7 sur 10 ignorent tout de Jean 3,16. 52% des gens au Royaume-Uni ne savent pas qui était Ponce Pilate. Et je terminerai par cette histoire d'un couple qui a voulu célébrer ses noces en Asie. Alors ils ont pris l'avion, ils sont partis en Asie pour découvrir ces merveilleux décors cartes postales. Et ils sont partis sans oublier leur petit chien de compagnie, le petit Bichon. Et le Bichon a pris l'avion. Arrivés en Asie, ils ont visité ce pays merveilleux et puis ils sont allés jusque dans les montagnes. La nuit était en train de tomber et vous savez comment c'est là-bas quand la nuit tombe. Il faut ensuite trouver un moyen de se nourrir, de se restaurer. Il y a des petites échoppes qui longent les routes de montagne et ils rentrent dans un petit restaurant. Ils ont leur petit manuel pour essayer de discuter dans la langue locale et puis ils commencent à commander des boissons exotiques. Ils veulent vraiment se faire du bien et puis ils commencent à choisir, essayer de déchiffrer le menu de ce restaurateur et puis ils disent au restaurateur, pouvez-vous prendre soin du chien et de lui donner à manger. Une demi-heure plus tard, le restaurateur revient, quand tout à coup le couple a la surprise de découvrir que sur le plateau, il y a le petit Bichon. En fait, le restaurateur, au lieu de comprendre, pouvez-vous donner à manger à notre chien, il a compris, pouvez-vous nous donner le chien à manger. Il y avait eu communication, mais il n'y avait pas eu connexion. Et il nous faut connecter. Alors je vous invite à prier. On va prier pour que le Seigneur nous donne vraiment d'être compris par les gens du dehors. Sinon, c'est la catastrophe. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'onction de ton Saint-Esprit. Seigneur, qui nous enseigne toutes choses et qui nous permet de connecter avec les gens d'aujourd'hui. Tu désires que le message soit non seulement audible, mais qu'il soit reçu, qu'il soit pertinent. Seigneur, nous ne voulons pas courir à la catastrophe en dispensant un message qui ne touchera pas le but, avec des gens qui diront « nous n'avons pas compris ce que cet homme voulait dire ou ce que cette femme voulait annoncer ». Mais Seigneur, que les gens, lorsqu'ils nous quittent, puissent dire « j'ai compris ce qu'il disait, j'ai compris ce qu'elle disait, j'ai compris que j'ai besoin de ce merveilleux Jésus ». Amen. Que Dieu vous bénisse.